Alors, cette semaine a pour objectif de sensibiliser à l'écoute et l'usage du son comme moyen de connaissance et de représentation des espaces contemporains. Tout ce que Théa vient de nous dire sur à la fois les ambiances et le sonore. Alors c'est à la fois une question d'enquête, d'analyse, de représentation, mais c'est aussi, et c'est un peu le fait que le labo soit dans une école d'architecture, c'est aussi un outil pour participer à comprendre, cet outil de compréhension est aussi un outil de participer à la transformation de ces espaces, de la fabrique urbaine. C'est pas que une question de recherche pure, il y a une question d'action, d'implication, de projet là-dedans, sur la question de... Salut. Alors, au cœur de cette semaine, c'est une sorte de semaine intensive d'expérimentation, à la fois individuelle et collective autour du son. L'expérimentation avec la prise de son, avec le matériel. Je sais qu'il y a quelques-uns, quelques-unes qui ont apporté un peu de leurs matériaux sonores, mais le labo a toute une panoplie de différentes machines et de... On a vu, à la fois d'enregistrement et aussi de diffusion. On voit des vieux machines qu'on a sorties des archives. Alors, c'est à la fois une expérimentation avec la prise de son. Alors, question de faire du terrain. Comme j'ai dit, le terrain, ça va être surtout le focus cette année, c'est le parc Jean Verlac. Alors, de faire du terrain avec du son, de l'écouter, de l'analyser, de le monter, c'est-à-dire de composer avec le son, et aussi sa diffusion. Alors, c'est ça un peu tout le trajectoire de la semaine. Et avec ces questions de diffusion, à la fin de la semaine, alors je dis tout de suite les objectifs de la semaine, c'est de produire collectivement une émission radio qui va ensuite, pas en direct, malheureusement, on n'a pas les moyens financiers et techniques pour cette année, mais de le diviser sur Campus Radio, qui est une radio associative basée à Grenoble, qui est à la fois en analogue, à l'ancienne, et aussi en digital. Alors, on va en parler plus précisément. Mais d'abord, je vais juste parler un tout petit peu du on voit presque rien. Ça, c'est un œuvre d'un artiste qui s'appelle Douglas White, qui est une photo des traces laissées par, je crois, quelquefois je pense que c'est un canard, mais je crois que c'est un pigeon. C'est le trace d'un pigeon qui s'est écrasé contre une fenêtre. Et il y a toute une série de ces photographies, c'est surtout les hiboux qui l'intéressent, mais celui-là, c'est un pigeon. Alors ça, c'est tous des traces de toute la poussière des plumes du pigeon. Alors la question de l'écho du vivant fait d'une manière référence à l'écho, à l'effet sonore, qu'on va en parler un tout petit peu, effet sonore dans tout le catalogue des effets sonores du Cresson. Mais c'est aussi une sorte je trouve pas les mots ce matin. Une urgence de ce que, d'une manière un écho de cette urgence dont Théa nous a parlé ce matin autour de ce vivant en transformation. En fait, le vivant, cette grande catégorie qui commence à rentrer dans les sciences sociales et humaines, aussi dans le projet urbain, elle arrive dans un temps d'urgence, en fait, avec un sort de cri d'alarme. Alors, la ville n'a jamais été quelque chose de simplement humain, de juste humain. Nous avons toujours partagé les villes, l'espace urbain, avec une multitude de différents êtres. De ceux qu'on a intentionnellement introduits dans nos maisons, dans nos jardins, dans nos usines, dans nos casernes, jusqu'à ceux qui, et celles qui viennent de leur gré, qui viennent habiter les mêmes espaces que nous, sans être invités. Les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les arbres, les légumes, les herbes folles, les insectes, les champignons, les bactéries, les virus. Des voisins qui sont à la fois familiers, le pigeon, qu'on connaît tous, qui est au début rock pigeon, un pigeon de falaise, qui a trouvé dans l'espace urbain une niche écologique qui correspond en fait, et qui l'exploite, et qui le transforme. Des voisins à la fois familiers et étranges avec qui nous partageons l'espace. C'est-à-dire, la nature n'est jamais qu'ailleurs. Elle est aussi ici. Ces aides, ces voisinages ont pour la plupart été créés de nos histoires, c'est-à-dire nos histoires humaines, de nos récits de société, de nos villes et leurs politiques. On met quelques espèces élues en devant, on peut penser, au cheval, et ça a sa place dans les histoires des humains, une grande place dans les histoires humaines, mais la plupart des espèces, les arbres par exemple, les forêts, sont là plutôt comme un simple décor. C'est au meilleur cas. Mais aussi, alors quelque chose d'extérieur, quelque chose au deuxième plan de ce que c'est la société humaine. Et on dépense aussi beaucoup d'énergie à en exterminer d'autres. Il y a toute une série d'espèces qu'on essaye d'éliminer. Alors, pour cette semaine, en élargissant les questions des méthodes historiques du laboratoire que Théa nous a présentées, on va avoir des autres présentations au fil des jours. Alors l'idée, c'est de vraiment suivre ce mouvement du laboratoire au-delà du simplement humain, d'utiliser tous ces méthodes, ces outils, ces vocabulaires pour nous parler du sonore et de l'espace et la société, mais la société ou une convivialité ou convivialité, c'est pas mal, plus qu'humain. Comme quelque chose qui est fabriqué avec toute une série de différentes êtres. Et comment ces voisinages, à la fois banals, merveilleux, inquiétants, avec le vivant en ville, peut être décrit et partagé par le sonore. Alors la question centrale de cette semaine, c'est comment se manifeste ce son ou ces sons du vivant. Et avec ça, l'autre question plus épistémologique, méthodologique, pratique, c'est qu'est-ce qui pourrait être une écoute écologique ? Comment pouvons-nous déplacer nos sensibilités, nos habitudes, nos habitudes de perception, nos oreilles elles-mêmes, pour percevoir tout ce qui passe pour la plupart soit au-dessus ou en-dessous de nos seuils de perception, de ce qu'on prête attention à, prête attention et prend soin de, ou figure dans ce qui fait partie de la vie. Alors c'est ça, d'une manière, toute la richesse du sonore, et ce qu'on essaye d'expérimenter cette semaine, c'est comment déplacer nos moyens d'écouter, nos habitudes de décrire, de description, quelle forme de représentation, quelle forme on utilise pour se raconter la ville, et comment il nous permet une autre prise, en fait, une autre manière de faire la ville. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, le terrain d'expérimentation de cette semaine, c'est ce parc, c'est le parc qu'on voit qui commence juste de l'autre côté des fenêtres là, le parc de la Villeneuve, qui, je crois, dans les années 80-90, a été changé en parc urbain Jean Verlac. Alors, c'est un parc qui a été conçu par le paysagiste Michel Corajou, un de ses premiers grands projets, je crois, avec l'agence AESA. C'est quoi l'agence qui a
fait
AUA, j'étais presque là, tous ces acronymes français. Alors, c'est ce groupement qui a été au centre de ce développement de ce quartier de la Villeneuve dans les années fin. Ça a commencé à fin. Je ne suis pas spécialiste de ces questions, mais ça a commencé en termes d'intention de la ville au fin des années 60. Ça s'est construit sur des terrains agricoles, très riches agricoles. Et ça s'est construit au début des années 70. Et dès le début, le parc était au centre de la conception, on pourrait dire utopienne, des architectes, paysagistes, sur ce que serait ce quartier, ce que serait une ville neuve. Alors Nicolas Tixier va nous parler de ça, de l'histoire de ce parc et de ce quartier cet après-midi. Alors mais ce qui m'intéresse, c'est dès le début, il a cette place du parc. Du parc comme une forme de cohabitation entre humain et le plus qu'humain. Le parc est au centre de ce qui fait ville, de ce qui fait société. Alors, d'une manière... Une de nos autres questions pour cette semaine, c'est quelle est aujourd'hui la réalité de cette cohabitation ? Ou on pourrait dire quelle est la trace de cette sorte de rêve utopiste des années 60-70 ? Quels sont les espaces et les temps de convivialité en différents aspects, différentes dimensions du vivant dans ce parc ? C'est à peu près. Alors pour répéter un peu les objectifs de cette semaine. Alors d'abord, c'est une question d'apprentissage pratique. Vous allez la majorité de la semaine et avec le matériau et d'aller sur le terrain, de faire des prises de sang, de les écouter, de les monter, de les diffuser dans différentes configurations. Et comme j'ai dit en amont, de travailler, il a ce travail collectif. Alors, pour le dire simplement, j'essaie de le dire simplement, on va travailler en collectif tout le long de la semaine. Vous allez travailler en groupe. Ces groupes ne seront pas imposés, on va prendre du temps aujourd'hui, demain matin, à trouver les groupes, à trouver des groupes d'intérêt en commun. Et la taille du groupe, ça peut varier de... Peut-être il a d'entre vous qui voulaient travailler en solo, mais ça pourrait être des groupes jusqu'à 4-5, on verra, collectivement. Alors vous allez travailler en groupe dans la semaine, et aussi il y a ce travail qu'on va vraiment entamer mercredi, jeudi, vendredi, qui est de concevoir et de concrétiser une émission de radio. D'une heure et demie, à voir, exactement. Alors, dans vos travaux en groupe, l'idée, c'est de finir avec une création sonore, ça peut prendre plein de différentes formes, je ne vais pas les contraindre, mais de quelque chose dans l'ordre entre 4 et 6 minutes, environ les 5 minutes. Mais c'est très flexible, on verra ce qui se dessine pendant la semaine. Et qu'ensemble, toutes ces créations sonores sont d'une manière le contenu, la matière primaire de cette émission radio, et qu'on va habiller de discussions, d'introductions, de débats, on verra, de jingles, de musique, on verra ce qu'on fait. Et comme on a commencé à discuter ce matin, la richesse de cette semaine, dans mon expérience de ces semaines de Winter School, c'est vraiment... c'est vous, c'est toute la diversité de vos approches, qu'est-ce que vous arrivez de toutes vos approches sur le sonore, sur vos terrains, sur vos questionnements, sur les formes que vous travaillez, la manière dont vous travaillez. Et ça, c'est toute la richesse de cette semaine. C'est pas vraiment un moment de formation formelle où c'est nous qui téléchargeons des informations dans votre tête, quoi. C'est vraiment une semaine d'expérimentation collective et collaborative. Ouais, la formation est autant entre vous qu'avec nous. Où nous, on apprend autant que vous. Et dans cet esprit-là, les apports théoriques ne sont pas là pour vraiment pour expliquer, ils sont là comme des apports, comme des vocabulaires qui pourraient, ou peut-être ne pourraient, qui sont peut-être utiles. C'est à vous de voir. C'est des clés de lecture, c'est des vocabulaires, comme des outils, comme des microphones. Voilà, ouais, on passe un peu à la structure de la semaine. Alors, l'idée, c'est que ça, on a des moments en classe comme ça, des présentations de séminaires qu'on a appelés des séminaires, on en a trois, qui sont alternés avec des ateliers pratiques, de visite sur le terrain et ensuite de faire du terrain, et ensuite des sessions d'écoute, des écoutes collectives. Mais tout ça, cet espace est à nous pour la semaine, et l'idée, c'est qu'on l'utilise comme on le veut. Et qu'il a des moments d'écoute collective ou des écoutes en petits groupes. Mais s'il a des choses que vous voulez amener au groupe, c'est aussi possible d'improviser des moments, quoi, d'écoute, de partage, de tout le reste. Toute la semaine est conçue comme ça. Alors ça, c'est d'une manière la squelette de la semaine qu'on va...